Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine sportmédable. Autour de la table avec moi des voix que vous avez l'habitude d'entendre. Bruno Salvé, Eric Figuet, Ricardo Baroni. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Et puis un petit nouveau qu'il faut présenter, Romain Bonnet qui est avec nous aussi. Bonsoir.
Bonsoir Léo.
Merci tous les quatre d'avoir accepté une nouvelle fois cette invitation. On va bien évidemment parler de rugby, le tournoi Destination qui a débuté ce week-end pour nous. Bien évidemment, comme l'a dit Léana, un petit mot sur le Super Bowl et aussi les Jeux Olympiques d'hiver qui ont débuté. Voilà le programme de cette émission. On va donc l'ouvrir avec le rugby, la première journée du tournoi Destination. C'était vendredi matin pour nous,
oui,
avec une victoire de l'équipe de France, Bruno Salvé.
Une belle victoire de l'équipe de France, oui, avec un match abouti de cette équipe. On en avait parlé déjà la semaine dernière, face à une équipe irlandaise quelque peu affaiblie, mais bon, les Français ont fait une première mi-temps quasi parfaite.
22-0 à la pause.
22-0 à la pause, zéro pénalité concédée et surtout trois essais déjà en première mi-temps. Donc c'est vrai que la première mi-temps était vraiment aboutie de la part de cette équipe de France. Et une deuxième mi-temps un peu plus poussive avec des Irlandais qui ont un revanchard bien sûr, hein, parce que c'est une équipe qui est bien classée au niveau ranking mondial. Et donc l'apport du banc irlandais a beaucoup plus apporté que l'apport du banc français, puisque ils ont inscrit deux essais en deuxième mi-temps, mais bon, les Français aussi. Donc égalité sur la deuxième mi-temps, 14-14 pour un score final de 36-14.
Alors on va prendre ce match dans l'ordre. La première mi-temps déjà, messieurs, j'imagine que vous avez tous suivi cette belle rencontre de l'équipe de France. Romain Bonnet, cette première mi-temps des Bleus, comment on la juge? 22-0, c'est comme disait Bruno Salvé, quasiment parfait.
Ouais, une très très bonne première mi-temps. On était attendu quand même après une tournée de novembre qui avait pas non plus, qui nous avait pas régalé, si on peut dire. Donc là, grosse première mi-temps. Aucune pénalité en première mi-temps contre l'Irlande, qui est réputée comme une équipe qui tient beaucoup le ballon, bon, qui n'a pas trop réussi à le faire
jeudi soir. Beaucoup de jeux au pied.
Beaucoup de jeux au pied. Ils ont essayé de nous mettre sous pression, notamment pendant les 10-15 premières minutes où on était vraiment dans nos 22. On a réussi à bien s'en sortir. Donc ça, c'était déjà très rassurant. Et quand un match commence comme ça, ensuite, on a réussi à bien dérouler. Antoine Dupont, qui a bien repris son jeu au pied d'occupation, pied droit, pied gauche. Donc on s'en est très bien sorti sur ça. Et ensuite, on a déroulé notre jeu. Et les Irlandais ont été, comme disait Bruno, ils étaient un peu affaiblis, mais ils ont été, je trouve, assez décevants par rapport à ce qu'ils savent nous proposer. On sait qu'ils nous testent beaucoup sous les ballons, sous lesquels on a répondu présent. Mais un jeu qu'ils ont l'habitude, où ils ont l'habitude d'enchaîner beaucoup de temps de jeu, nous mettre à mal sur 5, 6, 10 temps de jeu. Là, ils n'ont pas du tout réussi à le faire, à part un tout petit peu en deuxième mi-temps pendant le temps fort. Là.
Alors justement, en première mi-temps, qu'est-ce qui a fait que les Irlandais n'ont pas réussi à mettre en place leur jeu comme à l'accoutumée? C'est quoi? C'est les Bleus qui ont été, l'équipe de France qui a été au-dessus. L'Irlande avec pas mal d'absents aussi, il faut le signaler. Voilà, il y avait quelques changements sur le départ.
Oui, mais il y avait quelques absents aussi en équipe de France. Hein, quand on pense que Winnie Antonio ne jouait pas, c'est la pierre angulaire quand même de cette mêlée française.
Thibaut Flamand,
donc il y avait pas mal de joueurs. Galtier avait intégré aussi pas mal de jeunes joueurs. Donc ce qui est intéressant, c'est le renouvellement aussi au sein de ce groupe. Et comme tu le disais, la charnière, Dupont-Jalibert a fait des merveilles aussi. Jalibert, pour une fois titulaire...
Qui a répondu carrément présent.
Il a fait un match parfait. Quoi. Il a bien géré l'occupation au pied. Il a bien attaqué dans la ligne comme il le fait à l'UBB. Donc il marque un essai. Il fait jouer après lui. Donc c'était vraiment une belle prestation de cette charnière. Dupont, tout en restant sobre, il a fait un jeu au pied comme tu le disais, très efficace, à la fois d'occupation, mais aussi de récupération sur l'essai de Bielbiaré en deuxième mi-temps, où il tape un petit coup de pied par-dessus, reprise de volée de Ramos du pied gauche, et Louis Bielbiaré qui va marquer. C'est des aspirations quand même assez exceptionnelles sur un terrain de rugby.
Très peu de joueurs peuvent faire ensemble. Il faut le dire aussi, c'est ces joueurs-là associés. C'est quelque chose à voir, quelque chose d'assez extraordinaire.
Ah oui, et puis un joueur dont on parle pas suffisamment, je pense, c'est Ramos. C'est un joueur exceptionnel.
Ramos est en train de devenir un des plus grands joueurs du monde.
on peut le dire comme ça, tout
à
simplement.
Son poste, hein,
oui, oui, il est en train vraiment de s'installer au plus haut niveau. Et puis il a ce qui manque encore un tout petit peu à l'équipe de France, et ce qui va permettre à l'équipe de France d'aller gagner la Coupe du Monde si elle arrive à sortir un petit peu ça, c'est du caractère. Et je crois que là, pour le coup, Thomas Ramos, il en a beaucoup de caractère, des fois un petit peu trop, parce que c'est un chambreur invétéré et ça fait un petit peu parler, mais ça, c'est aussi une des composantes de la performance, le comportement, le caractère. Pour être un grand champion, pour être une équipe victorieuse, ben, il faut ça aussi. Et cet ingrédient-là, si les coéquipiers de Ramos arrivent à l'avoir, je pense que ça fera des étincelles.
Alors on parle de coéquipiers, on est obligé d'y venir sur cette seconde période, les remplaçants, les finishers. Comment on juge l'entrée de ces sept joueurs-là? Est-ce que
ils ont beaucoup moins apporté que les finisseurs
habituels
irlandais, parce que les Irlandais aussi, je pense qu'ils ont dû prendre une soufflante aussi à la mi-temps, hein, 22-0. Je pense que l'entraîneur irlandais ne devait pas être content du tout.
22-0 puis 29-0. Quelques minutes après.
Ouais, donc c'est vrai que on fait un peu la fine bouche aussi. Hein, ils ont quand même pu gérer le match. Les conditions de jeu aussi n'étaient pas faciles. Ballon glissant, terrain humide. Donc ça reste quand même une belle prestation. Et ce qui nous a fait plaisir aussi, c'est le jeu de l'équipe de France qui a été fait de ballon de récupération, mais aussi de jeu de passe, alors que les conditions n'étaient pas très favorables pour pouvoir se faire des passes.
On a essayé de jouer, c'est ce que vous voulez dire?
Carrément, on a essayé de jouer, et puis on y est arrivé, puisqu'on marque des essais de trois quarts. Mmh. Même si c'est sur l'essai d'Olivon, c'est quand même Guillard qui a fait un match énorme aussi en deuxième ligne.
Et l'homme du match?
Après on a des joueurs qui performent et ça fait toujours plaisir et il nous tarde de les voir évoluer la semaine prochaine au Pays de Galles.
Alors vous l'avez dit plusieurs fois, ça nous fait plaisir. Il y a quelque chose qui fait encore plus plaisir, c'est de voir trois Calédoniens sur le terrain, j'imagine.
Ça fait toujours plaisir, oui, de voir trois Calédoniens sur le terrain et un quatrième de cœur, puisque Mathieu Jalibert a quand même, je le répète,
c'est vrai à chaque fois,
a commencé son école de rugby ici, au Stade Calédonien, donc quand il était tout petit. Je me rappelle très bien de lui. Il avait déjà ce petit jeu au pied par-dessus. Donc ça fait énormément plaisir.
Le retour de Peato Movaka.
Qui a été très dynamique sur les ballons qu'il a touchés, notamment quand il est rentré sur le terrain. Et puis Rodrigue Netti qui commence à avoir plusieurs caps d'affilée comme pilier gauche, donc c'est une bonne chose aussi pour ces joueurs là oui, bien sûr.
Alors Rodrigue qui enchaîne quand même pas mal avec le Stade Toulousain maintenant, c'est un élément indispensable depuis que Cyril Bailly s'est blessé. C'est lui qui enchaîne depuis maintenant un an, quoi, et puis il est titulaire. Donc c'est sûr que c'est mérité, je trouve, d'être appelé en équipe de France après plusieurs années où il était un peu sorti de la liste, quoi.
Absolument, oui. Après, il y a des joueurs blessés aussi. Wardy de La Rochelle qui peut prétendre aussi à ce poste de pilier gauche. On a vraiment un bon potentiel. Et puis, Yoram Moefana, qui, il ne faut pas l'oublier, qui a fait vraiment une belle prestation en tant que premier centre, franchisseur, qui, à chaque fois qu'il a attaqué la ligne, a réussi à franchir la ligne davantage et à mettre l'équipe dans l'avancée. Donc, c'est vraiment un bon match, une belle prestation de nos Calédoniens.
Oui. Belle prestation des Calédoniens. Belle prestation aussi de l'équipe de France face à l'Irlande. Je rappelle le score 36-14. Dans les autres résultats, l'Italie qui a battu, surpris, l'Écosse. Je me tourne vers Riccardo Baroni qui est avec nous. L'Italie qui bat l'Écosse sur une première journée de ce tournoi destination. Comment on analyse cette victoire? C'est l'Italie qui a performé, c'est l'Écosse qui a été un peu en deçà?
J'ai quelques petits regrets sur cette victoire de l'équipe d'Italie, pour la simple raison que ça se passe en même temps que les JO, et qu'il faut pas oublier que l'Italie, c'est quand même assez rare qu'elle gagne. Donc ça mérite d'être, je veux dire, au niveau de la presse et des médias, qu'on en parle un peu plus. En Italie, ils en ont parlé, mais très peu. C'était la même chose une année, je me rappelle que l'Italie avait battu la France, et c'était un engouement total des supporters. Ce qui est dommage, c'est qu'une grande partie des supporters suivent les JO et non le rugby actuellement, mais je pense que ça nous promet un petit futur sympa pour l'équipe d'Italie, du moins je l'espère, parce que si on analyse sur l'équipe d'Italie du foot, c'est pas du tout la même chose.
Alors, on va rester sur le rugby, on reviendra bien évidemment plus tard, hein, sur cette équipe de football italienne qui, encore une fois, tourne au ralenti. Mais pour le tournoi destination, c'est une bonne chose d'avoir ces équipes qui arrivent à battre, en battre d'autres, à revenir, à relancer tout simplement le tournoi, Bruno Salvé.
L'Italie est en constant progrès. Hein. Ouais. Lors de la tournée d'automne, ils ont quand même battu les Australiens. Donc, une équipe de l'hémisphère sud et double championne du monde, quand même, les Australiens. Et c'est vrai que sur ce match, moi, j'ai vu ce match. Les Italiens ont vraiment mérité cette victoire. Hein. Ils marquent deux essais dans le premier quart d'heure. Après, bon, les conditions météo ont été terribles parce qu'il a plu, mais c'était.
C'était la piscine.
Voilà, c'était vraiment averse. Donc, il pleuvait vraiment énormément. Mais ils ont tenu bon, ils ont inscrit même un essai en deuxième mi-temps, donc ils ont vraiment joué crânement leur chance. Et je pense que l'apport du nouvel entraîneur Gonzalo Quesada fait que cette équipe joue beaucoup mieux et beaucoup plus entreprenante. Et on l'a vu en début de match, malheureusement avec les conditions météo de la deuxième mi-temps, ils ont été obligés de se contenter de jouer énormément sur du jeu au pied, notamment de récupération. Et on peut fait de passe, mais bon, c'était des deux côtés.
Ils ont assuré la victoire 18-15 donc sur l'Écosse, bonus oui. défensif pour les Écossais.
Oui, mais victoire logique de la squadra azzurra, oui, bien sûr.
Et ouais. puis la dernière rencontre de cette première journée, l'Angleterre qui a écrasé le Pays de Galles 48-7, c'est logique de toute manière, l'Angleterre au top, le Pays de Galles depuis quelques années qui coule. C'est la descente aux enfers, Romain Bonnet, pour les Gallois.
Le Pays de Galles, ça fait quand même plusieurs années que c'est très difficile. Là, il y a une grosse crise avec le Covid, avec les clubs. Enfin, c'est des provinces au Pays de Galles. Et du coup, depuis, ils n'arrivent quand même pas du tout à s'en remettre. Ils ont un creux de génération. C'est un petit pays. Donc, trouver 23 joueurs de très haut niveau quand on joue l'Angleterre, la France ou l'Irlande, c'est un peu compliqué. Et là, malheureusement, alors il y a des joueurs un petit peu intéressants. Là, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas là. Notamment, je pense au capitaine habituel, Jack Morgan, qui est un très très bon joueur. Là, il n'était pas là. Mais bon, c'est pas lui qui allait tout faire. Et en face, l'Angleterre, pour le coup, qui revient très bien depuis deux ans, qui est assez impressionnante. Pour le coup, il y a une belle continuité dans les joueurs. L'entraîneur qui a pris la succession, Steve Borthwick, qui fait du bon boulot. Et voilà, l'Angleterre n'est pas là pour rien. L'an dernier, ils nous ont battus. Ils mettent à mal les nations.
Petit point.
Ouais, ils mettent à mal les nations de l'hémisphère sud. Cet été, avec les Lions, il y a beaucoup d'Anglais chez les Lions. Ils ont une équipe vraiment très intéressante. Ouais. Après. Je voulais revenir aussi sur l'Italie. Comme tu le disais, Bruno, ils ont vraiment construit leur match. On voit dans des conditions difficiles le 5 de devant et même le pack à rouler sur les Écossais qui n'ont pas du tout fait le poids. Et derrière, on le sait, au rugby, quand tu gagnes devant, derrière, c'est compliqué de jouer. Ils ont très bien manœuvré. Ils ont utilisé les conditions et le jeu au pied pour vraiment prendre le dessus sur l'Écosse qui n'a jamais eu la main, quoi. Et l'Écosse qui, moi j'ai été très déçu par l'Écosse, d'habitude qui joue très bien, qui produit un jeu flamboyant. Alors c'est vrai, les conditions n'aidaient pas, mais quand on a vu sur les 5 dernières minutes, je crois qu'ils remontent 80 mètres balle en main, ça ils n'ont pas réussi à le faire du match. Donc je pense qu'il y avait de quoi mieux faire pour l'Écosse. D'ailleurs on le voit, comme tu dis, en deuxième mi-temps ils sont bien revenus, ils échouent à 4 petits points, mais bravo à l'Italie et ça va être des sérieux concurrents, je pense. Ouais.
Riccardo Baroni, bravo à l'Italie, c'est un message qui fait plaisir.
Oui, ça fait plaisir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs italiens qui jouent en France. Quoi. Et donc, ils apprennent à bien jouer au rugby, puisque le rugby, ce n'est quand même pas un sport de culture au sein de l'Italie. Quoi. C'est un nouveau sport qui est en train de percer. Et donc, ils sont obligés d'aller à l'étranger pour apprendre à mieux jouer au rugby, un peu ce qui se passait en foot il y a bien longtemps.
Continuons à parler de ce tournoi destination. Une question que je me pose, après une déroute comme celle-là pour le Pays de Galles, le week-end prochain face à la France, on va avoir envie de se survolter, j'imagine. Ça va être compliqué pour les Bleus au Pays de Galles.
Non, ça ne va pas être compliqué. Si les Bleus jouent à leur niveau et font ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils savent faire surtout, ils l'ont montré contre l'Irlande. Même, c'est vrai qu'on l'a dit, mais on peut le répéter quand même, contre une petite Irlande, si la France joue à son niveau, et elle ne manquera pas de le faire, puisqu'elle va se préparer tranquillement, mais sérieusement, à jouer l'Angleterre lors du dernier match.
Donc
c'est pas la peine de se cacher toujours derrière son petit doigt et derrière la glorieuse incertitude du sport. À un moment donné, il faut dire les choses. La France est candidate à la victoire finale. La France est candidate depuis toujours à gagner une Coupe du Monde dans 18 mois environ. Donc voilà, il faut battre sérieusement. Pas la peine
comme l'an passé, 43-0.
Voilà, sérieusement, faire le job, bien jouer, bien poser son jeu, et puis ça le fera. Il y a pas de souci, pas la peine de s'inquiéter. Ou alors à ce moment-là, si la France a du mal contre le Pays de Galles et voire perd contre eux, bon, ben on va, voilà, on va se poser tranquillement et puis on va parler d'autres choses.
Alors oui, parce que la prochaine journée, ce sera Pays de Galles, France, Irlande, Italie, Écosse, Angleterre. Messieurs, je vais vous poser la question, le pronostic pour cette fin de tournoi. Qui le remporte, le Grand Chelem? Oui, non, Bruno Salvé?
On en avait parlé la semaine dernière déjà. On avait envisagé une finale France-Angleterre à Saint-Denis. Je pense qu'on se dirige droit vers ce scénario. Après, il peut toujours y avoir des surprises. Hein. Les Écossais vont recevoir les Anglais. Les Écossais qui doivent être vexés aussi par cette déroute en Italie. Donc ça peut être un match très intéressant. Et puis l'Irlande ne va pas se laisser abattre comme ça. Donc va récupérer. Récupérer sans doute certains cadres et va essayer de jouer crânement jusqu'à la fin du tournoi.
Du courage aux Anglais quand ils vont jouer les Irlandais quand même.
Absolument, ouais, parce que déjà
il risque d'avoir un peu de sport.
Ce sont deux équipes qui s'aiment pas trop, donc c'est vrai que après qui aiment bien les Anglais en rugby, donc
c'est et surtout pas les Écossais d'ailleurs, puisqu'on en parlait. Encore moins, encore plus eux que les autres.
Les ouais. Écosse-Angleterre font souvent des très très beaux matchs
et mais notamment là, en Écosse. Aujourd'hui, il y a quand même un gap très important quand même entre les deux. On verra plus le niveau réel de l'équipe d'Angleterre contre l'Irlande et ensuite, bien évidemment, contre nous.
Moi, je trouve que l'Écosse, elle est quand même très dépendante de son numéro 10, Finn Russell, qui est un des tout meilleurs joueurs au monde. Là, ce week-end, il a vraiment déjoué, je trouve, quand il est en grande forme, avec une paire de centres, Tupulutu, Hugh Jones, qui est vraiment impressionnante aussi. Ça peut faire des étincelles. Je me souviens d'un match, il y a 31-0 à la mi-temps, je crois, pour l'Angleterre. Ça revient à 31-31 et puis ça finit à 38 partout à la dernière minute. Donc, avec les Écossais, on n'est jamais à l'abri, j'ai l'impression.
Oui, mais avec un seul joueur, justement, capable de faire la différence, oui, c'est possible.
C'est vrai qu'il faudra voir les conditions de jeu aussi. Il faut espérer que sur ce match-là, il n'y ait pas trop de pluie, que le terrain soit sec, parce que c'est vrai que les Écossais sont très joueurs et proposent énormément de déplacer le ballon et jouent énormément dans les espaces libres. Alors qu'on a vu, bon, les Anglais, début de match, ils ont appliqué leur plan très à la lettre. Occupation du terrain par des grandes chandelles avec des joueurs qui montent rapidement et puis voilà, puis une fois qu'ils ont scoré une fois, deux fois, ils commencent à envoyer des ballons vers les extérieurs, donc le plan de jeu a bien fonctionné.
Il y a eu quelques cartons jaunes qui peuvent aider aussi.
Alors ce qui a été surprenant,
quand les Gallois jouent à 13,
oui, voilà. Ce qui a été surprenant sur ce match-là, oui, c'est bien sûr, les Gallois, c'est normal qu'ils ont été énormément pénalisés, y compris des cartons jaunes, parce qu'on subit sur le terrain, on se met souvent à la faute. Mais les Anglais aussi ont pas été très, très, très efficients dans ce secteur de la discipline, puisque eux aussi ont eu un carton jaune et ont été énormément pénalisés. Donc c'est vrai que sur cette première journée, les Français s'en sortent bien. Je crois les Français terminent à 5 pénalités.
4 pénalités. 0 en première mi-temps, c'est quand même facile. C'est du jamais vu au rugby international, quoi. Surtout contre une belle opposition.
Pourvu que ça dure, on va dire.
C'est possible. C'est alors possible. De là, en avoir zéro, on va pas attendre tous les matchs qui aient zéro pénalité en 40 minutes. Mais voilà, s'ils en prennent une ou deux par mi-temps, après forcément, quand on est une équipe en face, forcément, quand l'équipe joue, on est amené à faire quelques fautes. C'est logique. Mais voilà, il faut justement maintenir ce chiffre le plus bas possible.
On va continuer donc à suivre ce tournoi destination dès le week-end prochain. Un petit mot de ballon ovale. Léana, vous l'avez promis juste avant cette émission dans son mini-journal. Le football américain, donc avec la victoire des Seattle Seahawks 29-13 sur les New England Patriots, avec un show à la mi-temps qui était critiqué par Donald Trump, notamment Bad Bunny, accompagné de Lady Gaga et de Ricky Martin. Messieurs, ça aussi, c'est une compétition internationale, le Super Bowl, le football américain. Voilà, c'est quelque chose de prenant. On l'a vu, suivi par des millions de personnes à travers le monde. C'est un peu plus compliqué en Nouvelle-Calédonie. Se suit quand même ici sur le territoire.
Super Bowl, on est vraiment sur du sport spectacle. Vous parliez du show à la mi-temps. Voilà.
On tient surtout ça souvent du Super Bowl.
Voilà, c'est ça. Moi, mon épouse, elle ne s'intéresse pas du tout au football américain. Par contre,
Bad Bunny, elle a suivi.
Bien sûr, elle regardait la mi-temps. Et puis justement, on se l'est dit entre nous déjà. Donald, il doit faire à la tronche un peu de voir que des Latinos qui chantent à la mi-temps. Donc ça a pas loupé.
Il y a eu le commentaire de suite après la rencontre. C'était attendu. Il avait déjà annoncé avant. Voilà.
Pas étonnant.
Mais c'est ce qui fait aussi le show à l'américaine, encore une fois, le football américain. autre chose que le tournoi de destination. Est-ce qu'on pourrait voir peut-être ce genre de choses?
Alors, il ne faut surtout pas voir ce genre de choses sur nos terrains et en Europe, parce que ça reste, tu disais, c'est un sport, une finale internationale. Non, c'est surtout un sport américain. Alors, c'est un spectacle formidable. Hein. J'ai malheureusement pas eu la chance de le voir ce matin. Travail oblige. Mais c'est vraiment un sport très spectaculaire. Malheureusement, beaucoup trop haché. Par le style de ce sport, hein, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est très très long, c'est une finale qui dure quasiment 4 heures.
De 10h30 à 14h30.
Voilà, c'est vrai qu'il y a le show au milieu, mais c'est pas toujours évident à suivre, mais ça reste très spectaculaire, voilà, c'est assez agréable à regarder. Bon, après, il faut reconnaître que voilà, ça leur appartient, on le regarde une fois dans l'année, c'est très bien, et puis
on l'oublie jusqu'à l'année prochaine.
Oui, alors après, c'est toujours sympa, mais quelques images, quelques passages.
Les moments forts.
Voilà.
Bon, on va parler d'un événement et d'une compétition que vous suivez tous. On va passer au football avec la Ligue 1. Il nous reste quelques minutes avant la pause de 17h30. 21e journée de Ligue 1 ce week-end sur les pelouses de Métropole. Un enseignement ou deux, le Paris Saint-Germain au-dessus de l'OM, ça c'est une nouvelle, une nouveauté ou...
Ben, l'enseignement, c'est que Marseille est à sa place aujourd'hui, à la 4e place. Voilà, tout simplement, puisqu'ils ont été maintenant dépassés par Lyon. Lyon qui joue bien au football. Lyon qui a une vraie continuité. 10 matchs, je crois, sans défaite. Donc ça marque un petit peu l'organisation d'une équipe. Et puis, à contrario, on en a parlé la semaine dernière. Et puis la semaine dernière et les semaines précédentes.
Mais les années aussi.
Et les années aussi un petit peu. Mais là, ça devient quand même un peu particulier. Même quand on est supporter de l'OM, on est depuis de nombreuses années. Moi, j'ai quelques copains ici. Qui sont comme moi supporters de l'OM, voilà. Et puis à chaque fois on est désespéré parce que à chaque fois on se met à y croire. Et puis on retombe très lourdement et on commence à avoir mal au derrière, pour parler proprement, parce qu'on tombe souvent. Et ça c'est un petit peu embêtant. Mais le Paris Saint-Germain a joué à son niveau. Et quand le PSG joue à son niveau, l'Inter en a pris 5 en finale de la Champions League, hein, on le rappelle. Donc Marseille en a pris 5. C'est comme ça, et c'est mérité. Il y a pas grand-chose dans cette équipe une fois sur deux. Il y a quelques bonnes séquences, il y a quelques bons joueurs, mais ça ne suffit pas pour aller titiller le champion d'Europe.
Avec
donc 5-0.
Baroni, voilà. Je vous vois hocher la tête.
Oui, il ne faut pas oublier, concernant Marseille, que c'est passé vraiment à pas grand-chose en Champions League. Quoi. Comment c'est, je veux dire, un film à suspense, ils ne sont même pas capables de faire un suspense pareil. Ça s'est joué à un gardien qui marque un but. Ouais. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Donc ça aurait pu tout changer la situation. Surtout qu'après ce coup, Marseille a un peu de la difficulté à redresser la tête. Quoi. Et puis on a Lyon, hein, avec le nouveau joueur Hendrick, qui vraiment est impressionnant. Et donc c'est vrai que pour l'OM c'est pas facile. Mais
justement on peut en parler de cette expulsion. Il y en a eu plusieurs ce week-end et des cartons rouges qui n'ont pas été donnés aussi. Marseille-Paris, quelques minutes de jeu, premier but des Parisiens. Il y a peut-être une faute aussi qui n'est pas sifflée. Romain, vous me le disiez avant l'émission. Cette VAR pose question.
Ouais, je crois Vitinha en tout début de match sur Balerdi qui a un pied très très haut.
Semelle, ouais.
Je me dis avec la VAR aujourd'hui, je comprends pas trop comment c'est pas revu. On a vu en milieu de semaine Marseille contre Rennes, le joueur marseillais Nouanéri qui fait une belle semelle sur le Rennais. Heureusement en Coupe de France il y a pas la VAR, donc ça les a bien aidés. Mais pour revenir sur le match de Ligue 1, est-ce qu'au bout de 10 minutes s'il y a un carton rouge pour Paris, ça fait 5-0? Je pense pas. Honnêtement, vu la différence de niveau, je pense que ça n'aurait pas non plus permis aux Marseillais de rivaliser sur ce match. Mais comme Eric le disait, on est un peu sur le syndrome Marseille depuis quelques semaines. Ça monte très très haut, ils font un très bon début de saison. Puis là, tous d'élite. Ricardo, tu le disais, la Ligue des Champions qui part en quelques minutes à peine après un match catastrophique à Bruges. Et puis là, on a du mal à s'en remettre. Le PFC, puis cette fois à Paris... Ouais, Marseille dans la crise, encore une fois, j'ai envie de dire.
Comme toutes les saisons, c'est vrai que chaque saison, on a cette discussion. Jusqu'où va aller Marseille? Et puis finalement, où en est la crise à Marseille?
Après, pour revenir sur le match de Coupe d'Europe, c'est pas la dernière minute qui fait que l'OM ne se qualifie pas pour les play-offs, pour les barrages en l'occurrence. Hein, c'est les points perdus bien avant.
C'est les 8
matchs.
On
se focalise effectivement sur les 5 dernières minutes et sur cette montée du gardien et qui marque le but décisif. Mais ils ont malheureusement pas fait le travail avant et ils le payent à ce moment-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il paye le mauvais travail, il paye, on l'a dit la semaine dernière, le changement perpétuel de joueurs, des joueurs qui sont achetés et revendus 6 mois après, le manque de continuité, j'en ai parlé la semaine dernière, même s'ils ont effectivement un Italien, un très bon entraîneur, pour autant, pourquoi est-ce que ça change systématiquement? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de compositions d'équipes différentes? Alors bien évidemment qu'on comprend maintenant qu'il faut faire tourner son effectif avec tous les matchs qu'ils ont, c'est une évidence, mais on peut pas se permettre d'avoir aussi peu de continuité dans un effectif, aussi peu de continuité dans une ligne directrice et obtenir des résultats, c'est quasiment impossible. Bon, c'est impossible même sur la durée d'un championnat.
On espère que tous ces conseils seront entendus jusque sur la Canebière, parce que c'est vrai
que je doute qu'ils m'écoutent,
chaque saison pour les Marseillais.
Voilà.
Il est 17h30, vous êtes sur Radio Rythme Bleu, une semaine formidable qui continue dans quelques instants après une petite pause.
RRB, la pub.
C'est ton ventre qui fait ce bruit-là ?
Oui, bon, ça va, arrête de m'afficher.
T'inquiète, moi aussi, j'ai sur la dalle. Hé, mais la Maison du Pain sort sa nouvelle formule étudiante. Ça te dit, on teste ?
La Maison du Pain, au complexe 4 ? Mais il y a quoi dans la formule ?
Alors, t'as une boisson, un tacos au choix et un dessert.
Ah ouais, c'est complet, quoi.
Et attends, j'ai pas fini. La formule est à 990 francs seulement.
Mais c'est pas cher ! Voilà le nouveau spot pour manger cette année.
Plus d'infos en magasin et sur la page Facebook complexe 4.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Aux frais du temps, aux frais du soin, aux frais du bien-être. Avec Quintessence, centre de bien-être et de régénération à Nouméa. Offrez une expérience sensorielle unique à la personne que vous aimez. Le bon pour s'aimer, disponible chez Quintessence au 16 rue de Sébastopol, 31 85 85.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Il est 17h31, retrouvez tout de suite Léo Fichou pour la suite de votre semaine sportive.
Une semaine sportive avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotion avec les offres Canal+.
Et on prend la direction de l'Italie, Milan Cortina pour les Jeux Olympiques. Alors on reste en studio, mais vous allez nous faire voyager Riccardo Baroni, cette cérémonie déjà qui a lancé les Jeux Olympiques d'hiver.
Oui, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans mon pays. Et j'ai commencé à goûter à ce moment assez particulier avec le défilé de la flamme dans toute l'Italie, de la flamme olympique. Ça a commencé à Rome avec un champion olympique de natation pour faire la transition entre les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Ensuite, ça a traversé une grande partie de l'Italie. La flamme s'est arrêtée dans mon village en Italie, donc je me suis pas gêné d'appeler la maire de mon village pour lui poser la question, et elle a été très surprise de voir que c'était un engouement de tout le monde, des jeunes, des moins jeunes, de tout le monde était pour eux, c'était un événement très particulier, la traversée de leur village avec la flamme olympique. Et puis après il y a eu l'arrivée de la flamme à Milan, qui a été quelque chose d'assez exceptionnel, en sachant que la flamme n'a pas été déposée qu'à Milan par par Alberto Tomba et Compagnoni. Il y a eu aussi à Cortina, puisque c'est Milan-Cortina, les JO d'hiver à Cortina, par la bergamasque Goggia, qui elle est toujours en activité, hein, puisqu'elle a fait troisième à la descente, la dernière descente.
Et donc cette cérémonie qui a lancé de la plus belle des manières ces Jeux Olympiques en Italie, c'est toujours plus belle des manières pour les Italiens quand même, ils sont troisième au classement des médailles après quelques compétitions, les Français un peu plus loin, septième, mais ces Jeux Olympiques c'est toujours un événement international qui attire le... On essaye de plus en plus, forcément nous les sports divers c'est peut-être pas ce à quoi on prête plus attention ici en Nouvelle-Calédonie, mais malgré tout, on suit quand même le biathlon, on suit quand même certains sports et d'autres un peu moins.
Tout à fait, ouais, c'est l'occasion comme les Jeux d'été, hein, de découvrir des sports qu'on regarde rarement. Par exemple, il y a le curling, que mon frère me disait que c'est un sport qu'il regarde qu'une fois tous les 4 ans, parce que sinon on le voit rarement à la télévision. Il m'expliquait que la pétanque qui correspond au cochonnet, donc à la pétanque, c'est une pierre de 19 kilos. Il m'expliquait qu'il regardait, que c'était de la concentration, c'était beaucoup de choses, et qu'il aimait bien regarder ce type de compétition, parce que ben, c'est assez rare de trouver des bons commentateurs de ce genre de manifestation. Mais après, quand on regarde les JO d'hiver, on revient toujours aux mêmes disciplines, hein, slalom géant, slalom spécial, la descente. On a eu droit à une descente assez spectaculaire, puisque Lindsay Vonn a voulu absolument la faire, cette descente, malgré qu'elle se soit blessée
quelques jours plus tôt,
en début d'année. Donc, elle a voulu le faire absolument, parce que pour elle, c'est un événement assez particulier, puisqu'elle a déjà été championne olympique.
Il y a 24 ans.
Alors justement, voilà. C'était pas la compétition de trop. Est-ce qu'elle méritait sa place? Elle aurait peut-être pas dû la laisser à un plus jeune.
C'est facile de le dire après, mais voilà, c'est une immense championne déjà rentrée dans l'histoire, et elle a fait le pari puisqu'elle s'était effectivement, comme tu dis, Ricardo blessé, et elle a fait le pari. Et si chance pour elle, ce pari avait été gagné, on aurait tous crié voilà au génie, et ça aurait été un des grands moments du sport. Et malheureusement, sans doute peut-être un peu affaiblie, elle a touché la porte, elle a déséquilibré, et puis elle s'est lourdement chutée. Elle est du coup blessée très grièvement. Donc oui, ça malheureusement ça entache un peu sa fin de carrière, mais non, ça n'entache
ça
rien. Elle a fait un pari. Ses médecins étaient plutôt derrière elle. Voilà, pour l'encourager à le faire si elle le sentait, et elle le sentait. On l'a vu, on espère que les images qu'on a vues étaient les bonnes, mais on l'a vu se préparer entre sa blessure et la descente, et elle avait l'air, avec son attelle, elle avait l'air tout à fait en forme, capable de faire tous les exercices. Donc c'était encourageant, et puis voilà, ce sont des choses qui arrivent quand on fait des paris. Malheureusement, il arrive qu'on les perde.
Puis elle avait encore le niveau, puisque elle avait fait ce retour, donc elle venait, elle faisait en fait un retour pour ces Jeux Olympiques à Cortina qu'elle avait gagné, je sais plus, 10 fois, 11 fois, je crois, en Coupe du Monde sur cette piste-là. Mais elle avait été le mois précédent, elle avait gagné une manche de Coupe du Monde, il me semble, donc elle n'était pas hors de forme du tout.
Et elle avait fait 3e sur les essais, sur les entraînements,
c'est cette blessure qui, c'est vrai que oui, concourir avec un ligament croisé en moins à 41 ans. Et un ligament croisé,
c'est pas le premier sportif à réaliser des exploits, puisque certains sportifs ont gagné des titres olympiques avec des croisés en moins, mais avec des ligaments antérieurs, avec des ligaments latéraux plutôt en moins, et donc c'était possible. Voilà. Mais bon, voilà, une petite erreur. On saura jamais si c'est son état de forme qui l'a provoqué, ou si c'est simplement une erreur, que tout, même ces grands champions peuvent faire.
Non, c'est la première image forte de ces Jeux Olympiques. Ricardo Baroni, il y en aura d'autres, des belles images cette fois.
Oui, mais concernant cette compétitrice, il n'y avait que 13 secondes de compétition, donc je pense qu'elle est rentrée trop fort dans le jeu, qu'elle a mal jugé la porte, et non qu'elle était fatiguée, parce qu'à ce niveau-là, je pense qu'elle savait ce qu'elle voulait faire.
Il fallait se lancer apparemment très très vite, excuse-moi Ricardo, il fallait aller très très vite au départ, parce qu'après c'était relativement plat apparemment, et donc elle a fait le forcing à ce moment-là, et puis je te laisse.
Ce qui m'a surpris, c'est l'attitude des Américains à l'arrivée, où plus personne ne disait rien, il ne se passait plus rien du tout, c'était vraiment, tout le monde attendait de savoir ce qui s'était passé, voilà. Et donc dans les compétitrices qui ont suivi, il y a eu quand même 40 minutes d'arrêt, et donc ça a déstabilisé plusieurs compétitrices qui devaient descendre, et elles se sont pas plaintes, hein, loin de là, mais ça a changé le protocole, puisqu'il y a un protocole qui est mis en place pour l'échauffement et tout, et donc ça a repoussé de 40 minutes, et peut-être le résultat, même si le résultat est excellent quand même, et c'est une grande championne qui gagne, mais je veux dire, peut-être qu'il y a d'autres compétitrices qui auraient été mieux dans le jeu si la compétition s'était déroulée normalement.
Elle n'a pas été la seule à se blesser, il y a eu une autre blessure assez grave.
Il y a plusieurs chutes aussi chez les hommes aussi, c'est les Jeux Olympiques, il faut être présent sur une course. Ça passe ou ça casse.
Les aléas.
Il y en aura d'autres d'ici la fin des Jeux. Un petit mot sur les chances peut-être de médailles françaises. On va les suivre. Est-ce qu'il y a des bleus qu'on attend? Le biathlon, forcément, qui a très bien lancé les Jeux Olympiques pour la délégation tricolore, Ricardo Baroni.
Oui, le biathlon a bien lancé la médaille d'or.
Il y avait une médaille d'argent en skiathlon
que je connaissais pas. Voilà, une discipline qui est très peu connue et que j'ai regardé. Après avoir vu le résultat, j'ai dit qu'est-ce que c'est ? J'ai regardé et c'est très bien. Hein, c'est une belle compétition puisqu'il y a du ski de fond classique. Et il y a du ski de fond, on va dire, moins classique, libre, et qui est assez impressionnant. Et le Français, il s'est vraiment, on va dire, arraché pour faire une médaille, comme quoi la médaille est très importante, puisque je crois qu'il y a un autre Français qui fait cinquième et qui l'interview à l'arrivée. Mais il est déçu, mais quelque chose d'incroyable. Et je pense que dans une manche de Coupe du Monde, il n'aurait pas été aussi déçu. Il aurait été content de faire cinquième. Là, le seul objectif pour les gens au JO, c'est de monter sur le podium et d'avoir une médaille.
Alors, des chances de médaille, il y en a encore aujourd'hui pour les Bleus en ski alpin, combiné par équipe avec descente et slalom. Je ne vais pas tous les citer, mais les grands noms sont là, Clément Noël notamment. Du hockey sur glace féminin, Allemagne-France, les Françaises qui ont très mal démarré leur compétition.
Manifestement, mathématiquement, sont encore en capacité de se qualifier.
Alors
apparemment, il y a un règlement assez particulier, puisqu'elles ont perdu 3 ou 4 matchs déjà, et pour autant,
notamment contre les Italiennes. Il y aura du saut à ski et du patinage artistique encore à suivre aujourd'hui. On ne pourra pas s'étaler plus longtemps sur ces Jeux Olympiques. Ça va durer jusqu'au 22 février, donc on en parlera encore une fois dans nos prochaines émissions. Il va peut-être être l'heure de passer à vos coups de cœur. Coup de gueule, messieurs, est-ce que quelqu'un veut commencer ? Ricardo Baroni, je vous laisse la parole.
Mon coup de cœur, c'est l'arrivée de mon président, Mattarella, au stade de San Siro, dans un tramway. Que ce tramway, il était conduit par Valentino Rossi, et ça, j'ai trouvé ça excellent.
C'est vrai, une très belle image pour débuter ces Jeux Olympiques, le grand champion de moto, MotoGP, Valentino Rossi. Éric Figuère.
Une fois n'est pas coutume, je vais parler un peu de golf, hein, puisqu'encore une fois, on ne peut pas en parler. Donc non, simplement, deux très beaux tournois ce week-end, au Qatar et puis aux États-Unis en Californie, avec deux beaux vainqueurs. Mais surtout, la semaine prochaine, un très très beau tournoi sur un parcours mythique de Pebble Beach. Donc je vous encourage tous à regarder un tout petit peu, pour ceux qui n'ont pas envie de regarder trop longtemps, mais à regarder quelques images quand même tous les jours. C'est tous les matins, à partir de vendredi matin jusqu'à lundi matin. C'est très 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 intéressant à regarder. Et puis, parler d'un golfeur irlandais qui a 55 ans, qui s'appelle Padraig Harrington, qui, du haut de ses 55 ans, vient de jouer son 500e tournoi de feu l'European Tour et aujourd'hui du DP World Tour. Il arrive encore à se qualifier pour le week-end, donc à passer le cut, donc de faire partie de la meilleure moitié du champ de joueurs, qui est à peu près de 140 à 150
Le cut, c'est après
joueurs.
La deuxième journée.
Le cut, c'est après
pour jouer la troisième et la quatrième.
Voilà. Donc 500 tournois, c'est gigantesque. 55 ans, c'est encore gigantesque. Il est encore très performant. Il est très fort sur le circuit, le Champions Tour, qui regroupe les joueurs de plus de 50 ans aux États-Unis. Mais c'est un très, très beau champion, 3 fois vainqueur de majeur. Et quand on arrive à... Moi, j'aime bien les champions qui durent. Et quand on arrive à jouer 500 tournois sur un circuit avec autant de victoires et autant de bons classements, je trouve ça exceptionnel.
Ricardo Baroni, vous vouliez réagir.
Un deuxième coup de cœur.
Allez, un deuxième coup de cœur.
Un coup de cœur féminin pour la patineuse Lolo Brigida.
Qui a battu le record olympique en patinage de vitesse.
Tout à fait, mais qui a eu un enfant il n'y a pas très longtemps. Et comme quoi, on peut revenir au haut niveau en ayant eu un enfant.
Son prénom, c'est Lolo ?
Non, ça c'est beaucoup plus vieux.
Le nom, je connais, c'est...
C'est famille, oui.
C'est une famille avec l'actrice, parce que j'ai regardé la course en direct, et c'est vrai que je suis allé après sur Internet pour regarder, c'est une petite nièce.
Il
faut savoir qu'avant, elle faisait du patinage artistique, et après, elle est passée... Voilà.
Bruno Salvé, votre coup de cœur.
Coup de cœur pour l'équipe de France des moins de 20
en rugby,
oui,
qui ont aussi remporté son premier match au tournoi des nations.
L'équipe d'Irlande sur l'ouverture, oui, 50-21, et un coup de cœur à les deux jeunes frères Kelleta Ona qui jouent au sein de cette équipe. Donc ils sont nés en France, mais le papa est un Calédonien avec qui je jouais à l'époque, mais il y a très longtemps. Ouf. Donc voilà, donc un grand coup de cœur pour cette équipe qui démarre très bien ce tournoi et qui est tenante du titre comme l'équipe de France senior.
Et on attend les femmes, les féminines aussi, qui vont disputer leur tournoi de destination.
Ouvrir, absolument.
Romain Bonnet, on terminera avec vous pour ces coups de cœur, coups de gueule.
On a beaucoup parlé rugby, alors comme coup de cœur, je vais évoquer le biathlon, l'équipe de France du coup qui est championne olympique de la première compétition de biathlon, le relais mixte. Je pense que ça représente bien...
les qualités de cette équipe de France avec le leader de la Coupe du Monde, Éric Perrault, chez les masculins et Loujean Monod chez les filles.
Accompagné de Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet, exactement.
Exactement. Donc une équipe de France très dense chez les garçons comme chez les filles et qui gagne avec, je vais pas dire une avance considérable, mais qui gagne sans se faire peur.
Grâce aux filles.
Grâce à Julia Simon notamment.
Ouais, et un tir exceptionnel.
Deux tirs. Super rapides qui gagnent et donc qui finit juste devant l'Italie. J'ai suivi la compétition en direct cette nuit au plus grand désespoir de ma copine du coup, mais ça m'a fait plaisir de voir c'était le premier événement que je regardais des JO, c'était ça, le biathlon que je suis d'habitude. Donc voilà, on est bien rentré en lice et je pense que ça présage des bons résultats pour le biathlon français.
On va vous demander de suivre toutes les compétitions où les Français sont engagés, alors si vous êtes le porte-bonheur de cette équipe de France. Merci tous les quatre, Romain Bonnet, Ricardo Baroni, Eric Figuer, Bruno Salvé d'avoir été avec moi, de m'avoir accompagné ce soir. Merci, une belle soirée sur Radio Rythme Bluff.